Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans ce bonus des Rois du Monde et Stone, etc. avec l'interview intégrale de Gwendal Marimutu qui était notre invité, notre tout premier invité des Rois du Monde et Stone, etc. Dans le numéro du mois de novembre consacré à la comédie musicale Résiste. Il nous a parlé de son parcours, il nous a parlé des anecdotes de création, des coulisses de la création du spectacle Résiste, et puis de ses goûts, de ses affinités en matière de comédie musicale. C'est la dernière séquence de cette interview qui est totalement inédite, elle n'était pas du tout dans l'épisode complet du mois de novembre, que vous pouvez toujours évidemment réécouter sur votre appli de podcast ou sur Acast que nous avons rejoint récemment. J'en profite pour vous dire que le 18 décembre, toutes les équipes de Micro Stockholm, notre label de podcast, seront au Tank Media à Paris pour une grande soirée d'enregistrement en public avec Bulldar, le podcast qui fait pétiller l'art contemporain, Stockholm Sardou, le podcast des captifs de Michel Sardou, C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre animé par mon ami Martin, et évidemment les Rois du Monde et Stone, toute l'équipe sera là pour décrypter une comédie musicale surprise. On vous en dit pas plus, on va disséminer des indices dans les jours qui viennent et faire le bilan de cette année 2019 d'émission. On reviendra sur les meilleurs et les pires moments de comédie musicale dont nous avons parlé. Je vous laisse avec l'interview de Gwendal Marimutu, tout de suite introduite par un de mes fameux jingles.
Qui vas-tu interviewer? C'est notre invité, plein de questions à poser.
Je craque.
Mais peut-on m'expliquer ce qu'est un invité?
Ce qui est bien, c'est qu'en plus, ils sont courts, ces jingles. Ils sont brefs.
Il n'y a pas de réponse à la question? Il n'y a pas de réponse à la question.
Peux-tu nous expliquer ce qu'est un invité, Ambre?
Aujourd'hui, c'est Gwendal.
Allez. Bah voilà.
Voilà.
Alors Gwendal, donc tu incarnes le rôle de Tennessee, on en a parlé dans le résumé dans ce spectacle, Résiste. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce spectacle, dans la troupe du spectacle?
C'est un peu un hasard, vraiment, c'est une grande chance que j'ai eue, c'est-à-dire que je connaissais Bruno Berberes en fait, qui est l'un des plus gros directeurs de casting de Paris, parce que j'avais participé à une émission qui s'appelle The Voice. C'était la troisième saison et suite à ça, il m'a en fait tout simplement proposé de passer ces auditions, mais c'était privé, c'est-à-dire que je m'aventurais dans un truc vraiment, je ne savais pas du tout où j'allais et la seule chose qui m'avait, on va dire, alléché, qui m'avait mis en confiance, bon c'était évidemment déjà que c'était Bruno parce que vraiment je lui ai fait une confiance aveugle. Quand il me propose des trucs, parce qu'il me respecte toujours vachement, et c'était parce qu'aussi il y avait Ladislas Chola en mise en scène. Et moi, j'admire vraiment son travail, et pour la petite histoire, j'ai joué un spectacle pendant 4 ans qui s'appelait Ado, qui se joue toujours d'ailleurs, c'est genre, ça fait 15 ans que ça se joue, c'est un truc de fou, au grand point virgule. Et en fait, moi, je suis arrivé, j'étais la deuxième distribution de ce truc-là, je remplaçais en fait les ados de l'époque, dont un ado qui s'appelle Thomas Oliveres, qui fait une carrière incroyable au cinéma. Et à l'époque, je le remplaçais parce qu'il partait faire, bon, tourner Intouchable et tout, et aussi faire Harold dans Harold et Maud, mise en scène par Ladislas Chola. Du coup, je suis allé voir ce spectacle. Et j'ai tout de suite adoré. Après, j'ai tourné dans le film Les Profs aussi. Et Pef a fait la station Chambaudet avec Ladislas. Enfin, donc, on s'est croisés plusieurs fois. Et j'avais ce souhait en moi de travailler avec lui. Mais je pensais pas que ça allait se faire aussi vite. Parce que vraiment, c'est genre, tiens, j'aimerais bien bosser avec ce mec. Et genre, l'année d'après, littéralement, on me propose de le rencontrer. Et voilà. Donc, je me suis présenté à ce casting. Mais je savais absolument pas pourquoi c'était. Je savais pas que France Gall allait être là. Et il fallait chanter la groupie du pianiste, évidemment.
On te dit quoi alors précisément quand on te propose de venir passer le casting? On te dit c'est pour un spectacle musical, point barre?
En fait, c'est chelou parce que c'était hyper privé. Ce qui se fait pratiquement jamais d'ailleurs sur d'autres, enfin ouais, pratiquement jamais, c'est fou, c'était hyper privé et du coup ouais non, c'est Bruno qui a fait son casting de son côté, qui proposait à France, à LAD et je crois que bah on y est tous allés un peu à la confiance quoi, parce que c'était vraiment je crois qu'il m'avait dit Gwen, j'ai un truc pour toi, c'est charmé, viens, apprends ça, reste bien fidèle à la mélodie. Et il fallait passer un petit monologue aussi. Et puis, il m'avait quand même dit la dissachola, quoi, mais c'est tout. Et que c'était un spectacle musical. Mais il m'avait pas cité France Gall, il m'avait pas dit que c'était au Palais des Sports, il m'avait pas dit ça. Quoi.
Donc, c'était un peu la bonne surprise. Quoi.
C'était une très bonne surprise, c'était un gros coup de pression, parce que je l'ai appris ouais, dans la presse.
Ah, t'as appris dans la presse que tu auditionnais.
Ah non, mais en fait, déjà, j'ai appris. Déjà, France, je l'ai vu au casting, donc ça, je me suis absolument décomposé parce que chaud, tu vois. Vraiment, je m'apprêtais
à. Aucune pression du tout.
Aucune, quoi. Et puis, non, grosse pression. Et donc, ça, voilà. Et donc, une fois que j'ai vu que c'était France, etc., j'ai googlisé comme un peu tout le monde. Et là, j'ai capté ce pourquoi j'auditionnais, parce qu'elle avait quand même fait quelques interviews avant, mais voilà, c'était un truc vachement privé.
Et du coup, quand tu es arrivée sur le projet, est-ce que le spectacle que nous, on connaît, c'était déjà abouti comme ça ? Il y avait déjà le livret, les chansons, etc. Ou est-ce que tu as eu une marge de manœuvre, toi aussi, pour créer ton personnage ?
Ah, on a eu totalement... En fait, on a eu à la fois une marge de manœuvre et en même temps, c'était très écrit. C'est-à-dire que France, c'est un projet qu'elle avait et qu'elle couvait depuis 10 ans, à peu près. Donc, c'était hyper touchant, d'ailleurs, de la voir... je me souviens qu'elle avait une pochette transparente et elle avait découpé, mais pendant 10 ans, elle a découpé. Quand elle voyait des magazines, tu vois, de mode, elle découpait comme ça et elle me montrait, bah voilà ce que j'ai pensé pour Tennessee. Pour moi, c'est un mec un peu comme ça.
Elle avait donc bien fait un Pinterest, en fait.
Ouais, non, mais vraiment, oui. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Donc, elle savait, il y avait un côté où elle savait exactement ce qu'elle voulait. Ouais. Donc, elle avait écrit le livret avec Brooke DeWitt. Et donc c'était une V1 du livret, évidemment, comme tous les spectacles, ça change. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait un an pour monter cette pièce, chose qui s'est jamais reproduite pour moi après. Donc un an de répétition, un an de à la fin, c'était pratiquement du sur-mesure.
Donc il y a quand même des choses qui ont évolué sur scène avec le jeu des acteurs en mode écriture plateau, etc.
Complètement. Je sais pas si je peux vous dire des trucs, tu vois, parce que je sais jamais trop ce que je peux dire ou pas dire. Mais non, mais par exemple, c'est vrai que sur les premiers livrets, enfin, la trame a toujours été la même, les chansons n'ont pas changé, on n'en a pas rajouté, on n'en a pas enlevé, mais les actions se passaient pas forcément de cette manière-là. Et puis la force de France, c'est qu'elle a su s'entourer, en fait, je trouve, de gens qui étaient littéralement dans l'air du temps. Elle a su déléguer, tu vois, Marion Motin, la danse était extraordinaire.
Ouais,
Ladislas, voilà, sa légitimité en tant que metteur en scène et plus à faire. Et pareil, pour le livret, elle s'est entourée aussi de Laetitia Colombani qui a adapté aussi toutes ses idées et donc qui avait un peu retravaillé l'histoire pour mettre davantage de suspense, davantage de rebondissements.
Ambre ?
Ouais, juste, il me semble qu'il y a quand même des choses qui ont vraiment bougé parce que j'avais entendu dire que le rôle de Matisse au début était censé être chou, enfin genre pas du tout bad boy ce qu'il est au final dans l'histoire, genre c'est pour ça qu'il l'avait rasé pour le clip de Résiste et tout, il me semble que j'avais entendu
en fait,
ça.
Oui d'ailleurs, c'est vrai que si vous regardez le premier clip de Résiste et ce que c'était sur scène après, tu vois qu'on a un peu bougé quoi, genre que nos persos ils sont un peu plus dessinés, effectivement
c'est
Matisse...
C'est normal parce que vous avez apporté vos personnalités aussi.
Ouais complètement, et... puis moi par exemple, bah allez je vous le dis...
Ouais,
mais non, mais je sais pas parce que je sais jamais
si
faut,
tu regrettes,
réveiller
on le coupera.
Un peu trop les backstage.
Sortez vos Twitter.
Mais non, mais c'est rien en plus. Mais par exemple, je me souviens que sur la toute première version du livret, j'étais avec Mandoline, c'était acté. Donc okay. C'est-à-dire qu'à partir dès la première scène, on se pécho, on est ensemble, etc.
Ça change vachement la narration quand même.
Alors finalement. Voilà, ce qui a tout changé, c'est que je passe ma pièce au final à vouloir la pécho. Donc du coup, par exemple, c'était ça. Donc c'était on avait moins de liens, par exemple, entre nous, et c'était beaucoup plus chacun avec le père. Enfin, c'était un peu comme ça. Et puis finalement, le fait d'avoir créé cette équipe,
puis d'avoir passé un an ensemble aussi.
D'avoir passé effectivement un an ensemble. Et moi, ce que je trouvais extraordinaire dans cette discussion, distribution, et c'est là où les choix de casting, enfin tu vois, c'est un vrai métier, parce qu'on a beau il y a beau avoir énormément de talent, il faut aussi que ça matche à 5. Et cette équipe de 5 était incroyable parce que personne ne se marchait dessus. Je trouvais qu'il y avait aucun doublon dans la troupe, toutes les personnalités se complétaient sans tu vois, sans tirer la couverture, ou et en plus d'un, on n'était pas en train de prendre sur nous pour vivre en communauté ou pour laisser la place à l'autre. C'est un truc qui s'est fait assez naturellement. Et donc, je pense que c'est pareil. Ouais, ils ont rajouté... Enfin, ils ont construit l'histoire aussi par rapport aux personnalités qui se dessinaient, ouais, en répétition.
Et donc, du coup, en fait, même justement, est-ce que ça a pu jouer sur la mise en scène, au sens où la mise en scène, elle cultive une sorte de bordel organisé, en quelque sorte, ce qui va bien avec le cadre de la boîte de nuit. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une place pour l'impro quand vous êtes sur scène et que vous jouez pas, justement, que vous êtes pas avec le projecteur dessus?
Alors, il y a aucune place pour l'impro à partir du moment où on a commencé le spectacle, parce qu'il faut savoir qu'au Palais des Sports, vraiment, tout est dangereux à partir du moment où on commence à improviser. Et ça, c'est un truc que vraiment, dont je me suis rendu compte sur des spectacles aussi gros. C'est-à-dire que sur d'autres spectacles, on peut se permettre d'improviser, c'est super cool, tu vois, mais sur des machines comme ça, où chaque phrase, en fait... Chaque phrase qu'on disait, c'était un top, soit pour une lumière, soit pour un danseur, soit pour un changement de décor, soit pour un mouvement quelconque, un top de musique. Donc, si on changeait quelque chose, on changeait un cue, et ça pouvait vraiment foutre complètement le bazar et nous mettre en danger.
D'accord. Mais vous aviez quand même une grande liberté quand vous n'étiez pas microté, en mode qu'on ne vous entendait pas dans la salle. Il se passait plein de choses sur scène.
Ah oui, oui.
Donc alors, là, il y avait peut-être plus d'impro.
Ouais, non, il y avait un peu d'impro, mais en fait... C'est ça la force de la Disas, et c'est ça qui a été, parce que c'est ça aussi, on n'aurait jamais pu monter ça en 6 semaines, quoi. Ça a pris tellement de temps. Je me souviens les répétitions, mais d'ailleurs, on avait un confort extraordinaire. Le producteur Thierry Suc nous avait offert la possibilité de répéter dans les décors. Je sais pas si vous imaginez, donc vous imaginez décors de Résiste pendant deux mois.
Ah ouais,
ah ouais,
c'est énorme.
Donc on n'avait pas les musiciens au début, on n'avait pas forcément tous les décors, mais on avait déjà pendant un mois, on avait les traçages et les différents niveaux, et l'autre mois on avait absolument tout, mais c'est-à-dire jusqu'aux lumières, jusqu'à l'équipement. Donc pendant un mois, c'est comme si on était au Palais des Sports.
Un mois de général, quoi.
Ouais, exactement. Et ce qui a permis effectivement, quand on a commencé, d'être vraiment prêt. C'est-à-dire que ça aussi, la part du temps, il y en a qui finissent, qui ont du mal. Nous, franchement, on avait fait 15 filages, on était sans pression, on était prêts, on avait envie.
Il y avait moins de stress, du coup.
Il y avait moins de stress, mais par contre, ça a été hyper long parce que justement, c'était un peu l'histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que tu as l'histoire qui est d'ailleurs, que tu vois un peu vraiment à la captation quand tu regardes le DVD, on suit vraiment cette histoire. Mais quand on assistait vraiment au Palais des Sports, il y avait vraiment toute une autre histoire. Chaque danseur avait une histoire, vraiment, chaque musicien avait une histoire. Et ça a pris énormément de temps à se monter, parce que pareil, vraiment, on a l'impression que c'est de l'impro, mais chaque déplacement était pratiquement les mêmes tous les soirs. Et on avait le droit, en fait, à un électron libre dans la troupe par soir.
Ah, c'était, drôle, ouais. C'était la consigne, d'accord.
C'est-à-dire qu'il y avait un mec, on disait, bon, tu fais ce que tu veux ce soir.
Ah ouais, ouais.
C'est drôle.
Bon, ça ne concernait pas nous, les rôles.
Mais pour les danseurs,
mais, c'est le mec, ok, je joue Matisse. Mais, mais j'aurais tellement aimé. Mais effectivement, chaque soir, il y avait un danseur qui était électron libre, qui pouvait un
d'accord.
peu... histoire de pimenter un peu, pour pas qu'il y ait de routine.
Comment on fait pour... Ah. Pardon.
Non, j'allais dire, du coup, on re-regardera la captation pour essayer de trouver qui était cet électron libre le soir de la capta.
Tu peux. Alors, le soir de la capta, que je m'en souvienne. Non, mais le soir de la capta, je crois qu'on a essayé d'être propre.
Ouais, il y en avait pas.
On était un peu stressés.
Comment on fait pour pas se laisser emporter, la réponse serait le professionnalisme, mais pour pas se laisser emporter par l'énergie des chansons, quand on voit que le public descend, que le public est debout, et quand on voit ce que vous donnez sur les chansons, pour justement à aucun moment oublier que c'est pas un concert et qu'il y a un rôle à jouer.
Ouais, bah je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on s'est laissé emporter beaucoup quand même.
Ouais.
mais que ça s'est transformé en moment de partage, et que finalement c'est ça qui est important. Qu'on n'en a jamais oublié nos personnages, jamais oublié l'histoire, mais que cette boîte de nuit prêtait aussi au kiff. tu vois, ouais. C'est-à-dire que effectivement, on n'était pas dans un, je sais pas, tu vois, on n'était pas dans un château ou dans, dans, là, on était dans une boîte de nuit, donc ça justifiait les musiciens, ça justifiait les clients qui deviennent danseurs, enfin, tu vois, ça justifiait cette ambiance un peu festive. Et du coup, je t'avoue que en vrai, on s'est vraiment laissé, enfin, en fait. Il y a tellement d'adrénaline quand on est sur scène et, bah oui. Et c'est tellement galvanisant quand on a une réponse aussi immédiate. D'habitude, c'est pas hyper français de faire ça, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vécu ça plus au Canada quand avec Saturday Night Fever. Tu vois, c'est plus anglo-saxon comme comportement en tant que public. De, tu donnes un truc, ils répondent tout de suite. Enfin, tu vois, tu fais une note, ils sont au taquet. En France, on attend la fin de la chanson, on applaudit, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Ce qui est déjà
on
cool.
Applaudit doucement au rythme pendant la chanson et puis à la fin.
Et donc là, c'était assez inédit et donc c'est hyper galvanisant quand même.
Ce qui est dingue, c'est la spontanéité du truc, parce que la spontanéité, du truc, c'est que ce que je racontais juste avant qu'on commence, c'est moi j'étais à la première du show j'ai été bluffé en fait par le fait que justement les gens se sont levés spontanément. Souvent quand un show est rodé, qu'il a tourné, il y a les fans qui ont un top pour à telle chanson descendre, mais là ça s'est fait tellement naturellement.
Ah mais ça j'en souviens toute ma vie.
C'était fou.
Toute ma vie, parce que malgré tout, c'est ouf à dire ça avec du recul, tu vois, mais on était en répète, on savait pas à la fin des chansons s'il fallait laisser un temps, si ça allait applaudir, si ça, tu vois, on savait vraiment pas. On était tellement ça faisait tellement de fois qu'on le faisait et qu'il y avait pas de public, on se disait bon ouais, mais peut-être que là, je peux laisser un temps, parce que ça, potentiellement, ça va peut-être applaudir quand même. Ouais. Et là, il était là, genre, je sais pas, on verra, tu vois, genre, enchaîne quand même, on sait jamais. Et en plus, pour le coup, France, elle voulait absolument pas, tu sais, elle est pas dans le truc un peu putassier de...
D'attendre les
de, ouais, de réclamer, ouais. Tu vois. Donc, et on s'est fait complètement avoir. Et c'est ça qui est magnifique, c'est quand tu vois que t'as le public qui s'approprie complètement le spectacle. Et à la première, déjà, on espérait juste que ça applaudisse à la fin des chansons, tu vois. Et juste
oui,
le fait
ça a dépassé vos espérances. Ouais,
là, quand les gens sont levés et tout, en plein premier acte, c'était fort. Ça envoyait un signal fort aussi. Et c'était, ouais, non, j'ai des frissons.
Et du coup, puisqu'on parle de frissons et de s'éclater sur scène, etc., il y a un moment du show que tu considères comme le plus fun, où tu t'es le plus amusé, une scène que tu gardes en mémoire?
Bah, il y a plusieurs trucs, hein. Tu sais, en fait, moi j'avais un show, j'aimais bien parce qu'en plus, mon perso, il était vraiment. D'ailleurs, je l'ai compris un peu après avec le recul. Parce que tu sais, tout le monde va te dire, bah, c'était la groupie du pianiste, genre c'était le feu et tout. C'était assez fou. Ça clôturait le premier acte et c'est là où tout le monde est au climax, tu vois. Genre, moi je suis au climax, le Victor est au climax, les danseurs, les lumières, les musiciens, tu vois. Genre, tout le monde est vraiment littéralement au max. Mais je m'étais dit, ouais, c'est la force de la chanson. Et effectivement, c'est la force de la chanson. Mais il y a aussi ce truc que j'ai compris, c'est un comédien qui me l'a expliqué, mais j'ai genre 6 mois, tu vois.
Merde.
Tu vois, il s'appelle Benoît Solès, il a eu 4 Molières là sur voilà.
Machine naturelle.
Et exactement, super spectacle. Et il me disait, en fait non, je crois que ce qui a touché les gens aussi, c'est le personnage, c'est la rencontre entre la chanson et le personnage. Tennessee, qui fait effectivement partie de la boîte et qui fait partie des meubles un peu, tu vois, qui est un peu l'homme à tout faire et il est un peu partout, tu vois.
Ouais,
mais
c'est un peu l'âme de la boîte.
Ouais. Et du coup, au départ, il a pas ce charisme ou cet engouement et là le fait juste qu'il rencontre cette chanson et qu'il se révèle et c'est, ça a participé aussi à ce moment fort, donc ça c'était cool parce que moi j'avais vraiment un show en crescendo qui finissait après vraiment sur Résiste où je devais chanter, voilà, enfin tu vois, la tona originale de France Gall, enfin tu vois, c'était assez assez chaud tous les soirs.
Trop de challenge
à faire, mine de rien.
Puis tu l'as monté en plus avec ton
ouais,
tu sais, t'as changé la... j'ai plus mes mots.
On faisait
la mélodie quand ça, c'est pas prévu. Hein.
Alors, c'était pas prévu, ouais.
Je faisais pas au début, ça.
Non, je faisais pas au début. Ah, on a pris quelques libertés.
T'as eu raison. Mais du coup, c'était loin d'être genre haut pour toi, la tona de France Gall.
Non, mais c'était quand même. C'était quand même un. Ouais, c'est vrai.
À faire quotidiennement, c'était quand même.
C'était un petit challenge. Et ça, pareil, tu vois, à la fin du show, j'aimais énormément ce morceau. Parce que pareil, les gens à la fin devenaient fous alors que le spectacle n'était pas fini. Et c'était un joli moment que je partageais, notamment avec Elodie et Léa. D'ailleurs, qui a un moment qui a pris un peu tout son sens après les attentats aussi du 13 novembre, tu vois. Il y avait cette appréhension, enfin bon, bref, je vais pas vous refaire l'histoire, mais en tout cas voilà, on n'a jamais rechanté cette chanson de la même manière, et il y avait cette tension qu'on a eue, qu'on a essayé de garder toute la tournée, et c'était, donc ouais, ça fait partie des moments un peu cool.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un moment pour toi qui était plus compliqué ou que tu redoutais un peu, enfin un moment que tu aimais moins ou qui te...
Très bonne question, on l'a jamais posée.
On a essayé de trouver des questions qu'on n'aurait jamais posées.
Non, mais que je réfléchisse, parce qu'il faut que je me remette dedans. Résis, qu'est-ce que... Alors, bah, en vrai, je redoutais toujours la groupie.
Ok.
Mine de rien, parce que c'était une vraie perf pour moi. Genre, et c'est ça que j'adore. J'essaye d'avoir toujours un des moments comme ça dans un spectacle, genre où c'est jamais gagné d'avance, tu vois, où tu peux pas te mettre vraiment en pilote automatique parce que, genre, tu sais pas si tu vas arriver jusqu'à la fin. Et la groupie, c'était une chanson de 5 minutes 30.
Ouais.
Et voilà, je le dis. Pour ceux qui n'avaient pas chronométré. Et 5 minutes 30, et il y avait l'entracte après. Et je vous dis la vérité, heureusement qu'il y avait l'entracte parce que je m'étais vraiment 20 minutes à redescendre. Parfois, je sortais en mode limite asthmatique. Tu vois, c'était très... Non, mais c'était... ouais, c'était... Parce que c'était à fond. Et ça, pour le coup, c'était toujours ce petit challenge en mode est-ce que je vais arriver au bout. Tu vois, parce que vraiment, c'était ça. Donc, je redoutais un peu ce moment-là.
Petite question technique. Quand on est sur un spectacle qui est 100% live comme celui-là, et quand on est sur scène, qu'est-ce qu'on a dans l'oreillette ? Est-ce qu'on a des tops du chef d'orchestre ?
Ah ouais ?
Ou est-ce que tout est millimétré, connu par cœur ?
Non, on a des tops. Bah, en fait, moi, les ears, j'adore ça, déjà. Ça a deux fonctions. La première, bon, bah, dans des salles comme ça, ce serait trop difficile de s'entendre vraiment bien et d'avoir des retours. Là, donc, il y a un vrai confort. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est les oreillettes qu'on a et que vous voyez souvent en télé. Et donc, en fait, c'est pas sorcier, on entend juste la musique et notre voix. Hein, donc, tranquille. Parce qu'il y en a qui se disent « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils se bougent les oreilles ?» et tout. Non, tranquille, on entend la même chose que vous, presque. Mais ça permet aussi... Alors, effectivement, il y avait des comptes. Pas mal de décomptes, parce que sur Resist, il y avait pas mal de morceaux qui commençaient sur le tempo, ou parfois, par exemple, quand Laurent jetait, cassait la bouteille, tu vois, il avait un long décompte. et en plus, c'était un décompte en anglais, parce que c'était...
92, qui, 91.
qui s'occupait de mettre les Pro Tools, et du coup, pour que ça corresponde au bruit, tu vois, il y avait un bruitage de verre cassé, parce que c'était une bouteille en sucre, hein, les gars. rapport au fait qu'on danse dessus après.
Et on peut la manger ou pas, du coup ?
Quoi ?
On peut la manger, du coup ?
On aurait pu la manger, je pense, hein, en grosse période d'hypoglycémie.
Après la groupie du piano.
Ouais. Et sinon, ça permet aussi, c'est pour la sécurité, c'est important aussi, ça permet de nous donner beaucoup d'informations dans les years, quand il y a des problèmes techniques, quand il y a un blessé ou quand il faut faire quelque chose en plein spectacle, on peut, du coup, on peut nous parler et continuer à jouer.
Et du coup, rien à voir, mais du coup, tout à l'heure, on parlait de la construction du personnage, etc. Du coup, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a en toi de Tennessee ?
Bah, en fait, c'est toujours un peu fou parce que je mets énormément de moi dans tous les persos que je joue. Et finalement, ce qui fait qu'après, j'ai plus l'impression de jouer. Même si j'ai des directions, il faut que j'essaie d'être juste et tout au maximum. Mais je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi. Alors, je pense que ce qui était difficile à choper du personnage, c'était plus sa naïveté, le fait, et puis surtout justement de pas trop exister, dans le sens où vraiment il faut qu'il y ait un crescendo et qu'au début, bah, on essaye de pas trop le remarquer, tu vois. Donc gommer un peu le côté peut-être un peu solaire que j'ai de manière assez naturelle, tu vois, un peu rigolo. Et donc c'était plus ça qui est éloigné. Par contre, en vrai, la sincérité, la sensibilité et tout du perso, c'était complètement moi.
Et donc peut-être pour finir, ton actu.
Bah écoute, en ce moment, il y a la captation de Palace, le spectacle que j'ai fait là, à la rentrée, qui va être diffusé bientôt là, sur France Télévisions, donc c'est très très cool.
D'accord.
Il me reste encore quelques posts synchro à faire pour la série Sam sur TF1.
Yes.
qui va passer là, je peux pas vous dire de date, mais prochainement. Voilà, c'est la 4e saison et je débarque, donc c'est moi, c'est ma première et j'ai vraiment kiffé l'expérience et l'équipe était vraiment top. Je suis animateur dans le GuLive tous les samedis et mercredis sur Gulli et sur YouTube en direct aussi. Donc ça se passe très bien, tu vois. Puis il y a d'autres trucs que je prépare, mais qui sont des surprises.
On a hâte de savoir.
Oui.
On va terminer avec une petite séquence que nous avons appelée la comédie musicale et toi. C'est un vaste sujet. L'idée, ce sont des questions très rapides. Donc tu as à peu près 5 secondes par question pour, pour répondre.
Même pas.
Même pas.
Voilà. Okay.
C'est, on mettra un métronome.
Ouais. Ah oui, tiens, on va mettre un petit décompte
dans les oreilles.
Three,
on y va.
Two, mais ce ne sera pas le décompte de la bouteille de sucre en 90.
Ouais, exactement. Ouais.
On y va. Le spectacle qui t'a donné envie de faire de la comédie musicale.
Putain, c'est horrible.
5, 4, 3.
Et là, il nous hait.
Pas forcément français d'ailleurs. Hein,
ouais, ouais, je sais, mais en fait, à la base, j'étais pas comédie musicale. Donc, ah. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la comédie musicale? Le Roi Lion. Hein.
Et de faire ce métier de comédien plus globalement?
Ça a toujours été mon père. Ça a toujours été un peu en moi depuis mon. J'ai suivi en fait mon père qui était chanteur, qui faisait des concerts et tout un peu partout. Et en fait, j'ai voulu faire pareil, je crois.
Le premier spectacle que tu as vu en live?
De comédie musicale, hein.
Ouais.
Le Roi Lion.
En français?
En
ou
français,
en...
à Mogador.
Mais
t'étais dedans?
Enfin, en anglais.
Tu t'es
plutôt.
Vu toi-même? T'étais dedans.
Oui, mais c'est-à-dire que c'était le Roi Lion en anglais.
Ah oui, et après tu l'as fait. Ok, j'ai bugué.
Ta toute première scène.
4 ans. Dans un piano bar. J'ai squatté la fin de concert de mon père. J'ai chanté une chanson que j'avais écrite que j'avais appris en maternelle.
Le rôle que tu rêverais de jouer un jour.
Moi, j'ai toujours dit que le rôle que je rêve de jouer, c'est les rôles qui seraient écrits pour moi. J'avoue, donc j'ai pas de genre c'est le rôle de ma vie et tout, je pars du principe que si j'ai le rôle de ma vie c'est que genre c'est une créa, moi j'aime beaucoup les créas, mais après j'aimerais beaucoup jouer Lola dans Kinky Boots,
qui ne s'est jamais montée en France je crois encore, si
non.
Je dis pas de bêtises,
je crois pas non plus.
Non.
Plutôt Broadway ou Palais des Sports?
Très bonne question, parce que j'ai ma petite théorie sur le les deux parce que, alors déjà, le Palais des Sports, c'est un peu énervant de regrouper tous les spectacles. Genre, il y a le Palais des Sports et la comédie musicale de l'autre, alors que pour moi, on fait plus ou moins tous le même métier. Maintenant, je suis allé, moi, à Broadway, voir énormément de spectacles quand j'étais au Canada, parce que c'était à 3/4 d'heure, donc c'était génial.
La folie.
Et en fait, en allant voir Broadway, en étant moi-même sur Saturday Night Fever, j'avais pas ce truc de oh, « c'est la honte je me mettais à la place d'inviter certaines personnes, tu vois, venir voir le spectacle, et je m'étais dit mais non, c'est cool, parce qu'en fait, en vrai, en France, on fait quelque chose qui se fait pas à l'étranger, ça ne se voit pas à Broadway, tu vois, et c'est pas mal, tu vois. Là, quand tu vas à Broadway, les écrans LED par exemple, tu vois, ils connaissent pas de ouf c'est cette manière de faire. On a un vrai savoir-faire en France quand c'est bien fait, hein. Comme à Broadway, il y a des daubes qui se montent et qui ne tiennent pas, et je trouve que c'est typiquement français. Et donc, il ne faut pas essayer de copier, ou alors quand on copie, on le fait très bien. Tu vois, Mogador, ils font des spectacles chambés aussi, tu vois, quand ils reprennent les licences. Mais donc, les deux. Moi, je suis fan de Broadway, mais je trouve que vraiment, on a un savoir-faire en France aussi qui n'est pas...
comparable.
Ouais, et puis qui est racheté surtout, tu vois. Là, il y a quand même plusieurs spectacles français qui tournent à l'international, tu vois.
Il y a une école française de la comédie musicale.
Ouais.
Il y a un reportage vidéo de l'AFP qui tourne sur Twitter là-dessus, sur les
spectacles musicaux à la française
qui s'exportent.
Ah
ouais,
tu vois. Dont Saturday Night Fever d'ailleurs.
Roméo et Juliette ou Notre-Dame de Paris?
Notre-Dame de Paris.
Ouais. Non, pas Juliette du tout.
mais Roméo et Juliette quand Ambre sera Juliette.
Ah.
Ça oui, on est d'accord.
Mozart, l'opéra rock ou le Roi Soleil?
Le Roi Soleil.
Excellente réponse. Les 10 commandements ou 1789?
1789.
Robin des Bois ou le roi Arthur?
Alors, choix compliqué.
Oui, ça se galère un peu vers la fin, t'inquiète.
Choix compliqué, choix très compliqué. Honnêtement, choix super compliqué.
Moi, je le trouve simple, ce choix.
C'est chaud. Je
Joker.
Joker.
Non, mais je dirais quand même Robin des Bois, je crois.
Dracula ou les Trois Mousquetaires.
Dracula. Jusque là, Gwenda était plutôt contente de l'interview. Et là, soudain.
J'essaie de trouver les amis que j'ai.
Honnêtement,
Dracula, c'était Thierry qui l'a produit.
Cindy, Cendrillon 2002 ou Cléopâtre?
Cléopâtre. Cléopâtre avec Sophia et Saïdi que j'aime beaucoup, que je respecte énormément. J'adore. Même Mehdi d'ailleurs, Mehdi Carcouche.
Aimer ou les Rois du Monde? Là, on rentre dans le détail du détail.
Ouais. Mais c'est-à-dire que moi, les Rois du Monde, c'est trop. Trop ringard. C'est-à-dire que je préfère un petit aimé cool, mais les Rois du Monde. Non, mais en fait, les Rois du Monde, c'est juste que ça me rappelle trop ce truc. Non, mais tu sais, ce truc. Pour moi, les Rois du Monde, c'est même pas Roméo et Juliette. Pour moi, les Rois du Monde, c'est Starak, c'est tout ça, tu vois. Tout ce truc.
Fais gaffe, t'es un peu en train de perdre une amie, là.
Mais j'aime beaucoup, mais tu vois, j'ai trop entendu les Rois du Monde.
C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu.
Les Rois du Monde. C'est pour moi, c'est cette voix-là, tu vois.
C'est Grégory Rodin. Baquet.
Non, là, c'était Philippe que tu faisais plus.
Les Rois du Monde.
Je sais plus aujourd'hui. Si, Tatoue-moi ou La Saint-Symphonie. Être à la hauteur ou Je fais de toi mon essentiel.
Oh, bah Emmanuel Moir, tout simplement.
Mais c'est les deux.
I know. C'est pour ça que je dis ça.
Donc les trichés. Les deux. Non, mais on peut dire les deux.
Ouais. Et attention. La groupie du pianiste ou Résiste?
Waouh!
C'est la dernière.
Ouais. Ouais, mais
c'est fait exprès.
C'est dur. Résiste, pour tout ce que ça signifie.
Eh bien, nous sommes arrivés au bout de ce questionnaire.
Ouais, j'ai mis 10 fois plus que 5 secondes, mais bon. Je devais justifier mes choix.
Oui, mais voilà, ça, tout est justifié, tout. Et puis c'était que des bonnes réponses. De toute façon.
Mais il n'y avait pas de bonnes réponses.
Non.
Bah, sauf pour Ambre. Pour une...
Ouais.
Non, après, il a donné une réponse que j'ai plutôt kiffée quand même.
T'as aimé?
Non, quand t'as dit ce sera bien quand on fera jouer.
Ah bah oui.
Merci beaucoup.
Oui,
d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Pour parler de ton expérience de Résiste vue des coulisses.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.